RFI. La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue en Bretagne pour ce nouveau volet de la danse des mots consacré à la langue bretonne. Dans son rapport aujourd'hui avec la culture, une culture tout à fait intéressante, surtout du point de vue de la musique, qui a beaucoup porté la vie de cette langue depuis deux générations. Alors, Lucie Bouteloup et moi, nous avons continué notre enquête. Nous sommes tombés sur un lieu historique de la langue, de la culture et de la musique bretonne, qui souffle ses 40 bougies. On a rencontré le patron, Jacques Hez. On a rencontré un musicien qui en est familier aussi, un clarinettiste, Guillaume Le Guerne. Et auparavant, nous avons rendu visite à Yann Fanch-Kemener, un très grand chanteur breton, très attaché à l'authenticité de cette langue, de cette culture, et nous l'avons rencontré chez lui. Il nous a raconté plus d'une expérience.
J'ai eu la chance d'être élevé dans une famille bretonnante, et puis surtout que j'avais une mère qui chantait, quoi. Alors elle nous chantait comme ça des choses, voilà, des choses pour les enfants, ou bien même quand elle vaquait à ses occupations, je chantais. Alors ça va du cantique à plein de trucs, hein, ça des choses d'ailleurs qu'elle avait entendues par ma grand-mère, enfin voilà, c'est ça. Et puis il y avait aussi une chose importante, c'est que à Sainte-Tréfine, donc là où je suis originaire, tous les ans il y avait un fest-noz. Mmh. Et donc en hiver, généralement c'était en janvier ou février. Et quand il n'y avait pas de panne d'électricité, bien sûr, et que de gel ou je ne sais pas quoi qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir le fest-noz. Mais ça, c'était mes premiers souvenirs de fest-noz où j'ai vraiment vu et entendu alors, chanter, danser et tout ça. Et je devais avoir 4 ans, quoi.
Oui, oui. Et donc vos premiers souvenirs, bah, c'est surtout votre mère, oui, avec des chansons qu'elle chantait toute seule quand elle travaillait, oui, quand elle vaquait à ses occupations, des berceuses peut-être.
Alors des choses comme ça, des choses pour... Quelquefois, elle nous prenait, quand elle était assise sur la pierre du foyer, elle nous prenait sur les genoux et nous faisait, voilà, des espèces de comptines, des choses comme ça.
Elle chantait quoi ? Il y en a qui vous reviennent en mémoire, là. Si vous voulez en chanter une, là, vous ne gênez pas, hein.
Oni, je n'ai que deux nasen, nos nasen n'est que deux jours. Peuvez m'amgouzi ribotade, ne vec pays à pas tout. Oni, je n'ai que deux nasen, nos nasen n'est que deux jours. Ça, c'était une. Mais en même temps, c'est une sorte de polka, ça. Et puis, alors.
C'est oui, mais chose... on sent bien une modalité bretonne, quand même. Hein. C'est une gamme bretonne. Tout de suite, au bout de la troisième note, on
oui,
sait où on est.
Parce qu'il faut la rendre bretonne. Voilà. Après, il y avait.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut la rendre bretonne, Yann Fanch?
Attendez, je cherche encore à chanter des choses. Là. Yé yé di bedou, beninkane, beninkane, yé yé di bedou, beninkane de haloub. Dreshte weda dreshten drish, beninkane, beninkane, dreshte weda dreshten drish, de djintina de gorlé. Yé yé di bedou. Ça, ça imite le cheval qui va d'abord comme ça au pas, quoi, et puis après, pap. Il va au galop, quoi.
Alors, quand vous entendiez votre mère, bah, elle chantait juste avec sa voix, a cappella, oui, mais quand il y avait des fest-noz ou des fêtes, il y avait des instruments ? Il y avait des chœurs ?
Ah non, jamais. Ça, le chant était toujours a cappella. La pratique du chant était a cappella. Et quand vous étiez deux ou trois chanteurs, toujours à l'unisson, hein ?
Pas d'harmonie.
Voix, oui.
Pas d'harmonie, non. Pas de polyphonie.
Non.
Donc, Yann Fanch-Kemener, si on remonte à vos premiers souvenirs, il y a votre mère et puis les premiers fest-noz auxquels vous assistez. Alors, on connaît bien le nom, mais dites-nous ce que c'est quand même. Qu'est-ce que ça veut dire fest-noz ? C'est une fête de nuit ?
Alors, ça, c'est un terme, c'est pareil, c'est apparu avec le revival. Avant, on disait on tenadek. C'était lié, comme c'était lié aux travaux agricoles, le fait de danser souvent. Voilà, on disait on tenadek, on ten respato, puis au filage, puis voilà, filage, c'est une filerie, quoi. Ça se passait le soir, à la veillée, généralement, donc voilà, on filait, mais c'était le prétexte pour chanter, pour danser aussi. J'ai le souvenir de vieilles, de moins vieilles d'ailleurs, venir chanter une chanson à écouter, comme on disait, quoi, hein, de Stoll et la Reine, quoi. Et donc, voilà, chantait. Après, vous aviez là-dedans différents concours. Donc, il y avait le concours à danser, il y avait des différents types de chants. Il y avait aussi un peu des choses de force, quoi. Il fallait peser des poids, il fallait tirer le basioud, enfin, des choses comme ça, quoi.
Yann Franche-Kemener, vous venez d'évoquer votre mère, les vieilles et les moins vieilles. Le chant, c'était beaucoup une affaire féminine ? Ou est-ce qu'on entend des voix d'hommes aussi ?
Non, il y avait des très bons chanteurs aussi à Sainte-Tréfine. J'avais un cousin qui s'appelait Grenelle, qui était un cousin germain de ma mère, là. Et puis Albert Bolloré. Non, il y a beaucoup de chanteurs d'hommes. Et d'ailleurs, c'est pas... vous pouviez avoir des couples de chanteurs hommes-femmes. Enfin bon, voilà, c'était assez...
Donc on ne chante pas différemment quand on est un homme et quand on est une femme. Il n'y avait pas un répertoire plus masculin, une façon de chanter ?
La question du répertoire, non. Après, c'est la question des tonalités, la question des hauteurs.
Et vous alors, Yann Franche-Kemener, quels sont vos premiers souvenirs de vous chantant ? Vous avez toujours chanté ?
Oui, quand j'étais petit à la maison, comme ça. Et puis, ma mère nous disait, quand on est de mon âge, quoi. Chante maintenant, quoi. C'était une façon de nous former aussi, quoi. On ne parlait pas de pédagogie, forcément, mais...
Mais il y avait une volonté de transmission.
Il y avait quand même déjà un goût de transmettre.
C'est-à-dire que le fait de chanter, c'était considéré comme un art, une technique, un savoir-faire. C'était pas juste je chante comme ça en travaillant, en faisant ci et ça. Il y avait quelque chose, il y avait un répertoire, des paroles, des airs, des choses qu'on se sentait la nécessité de transmettre aux plus jeunes.
Oui et non. C'est-à-dire, déjà, ma génération, dans un cercle familial comme ça, encore, parce que, bon, sûrement que je devais montrer un certain intérêt, mais c'est surtout quand nous sommes allés voir les plus anciens qui se sont aussi remis à chanter. Parce qu'il ne faut pas oublier le sentiment de honte qu'il y avait, la culpabilité qu'il y avait, à la fois à parler breton, à se dire paysan, à se dire... alors chanter en breton, c'était passé de mode, quoi. Bon, éventuellement pour un repas, quand il y avait un mariage, et puis encore les gens disaient, encore la grand-mère qui va chanter ses 90 couplets et de la Guerz de je sais pas quoi, qui n'en finit. Voilà.
Alors donc. Vous parlez de Guerz, allez, expliquez-nous un petit peu ce qu'on appelle une Guerz, parce qu'on l'entend beaucoup le mot, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Généralement, c'est un peu une classification qui est apparue au 19e, quand ils ont commencé les grandes collectes et tout ça. Bon, on a cherché, évidemment, avec toutes ces matières, il a fallu essayer de la ranger, de la classifier. Guerz, ça vient du latin versus, l'art de versifier un récit, ou l'art d'interpréter un récit versifié même, devrait-on peut-être dire.
Est-ce que vous avez l'impression que la façon de chanter est très en rapport avec la phonologie de la langue,
absolument,
avec la matière même de la langue bretonne ?
Absolument, la musique de la langue. Ah oui. Et chaque région et chaque terroir a sa musique en plus. Mais ça c'est évident, quoi. La façon de rouler les airs, la façon de le fameux tralala comme nous utilisons, le coup de langue là comme nous utilisons, et qui est très difficile à attraper.
Qu'est-ce que c'est que ce fameux tralala ?
C'est un triolet, si vous voulez, mais il faut le faire. Par exemple, et quand je vais chanter, je vais utiliser ça, mais en même temps avec mes phonèmes, quoi, que je vais plus ou moins ouvrir, plus ou moins tenir, plus ou moins faire résonner, placer un A. Mais il y a différentes façons de faire des A ou des O.
Alors allez-y.
Vous allez du A au an, quoi, par exemple. Hein, vous voyez ? Je sais pas, il faudrait que je trouve l'exemple, mais souvent je faisais après, par exemple dans les mimologismes que j'utilisais beaucoup, comme quand je faisais un peu de stage, mais ça c'est des choses que j'avais développées. J'aimais bien utiliser, par exemple, pour faire travailler le R roulé, par exemple, et faire sentir qu'on est dans la voix de gorge et passer dans le nez, quoi. Vous voyez, faire ces choses-là, travailler. En même temps, ça, c'est un exercice qui peut vous faire chauffer les cordes vocales. On fait vibrer les cordes tranquillement, gentiment, puis on se fait des petites roucoulades, quoi. Là, le vran, vran, Ça, c'est des choses qu'on nous apprenait tout petit aussi, par exemple.
Alors, il y a des façons tout à fait différentes de chanter, et il y a des chants aussi différents. Tout à l'heure, vous évoquiez le fameux cornadiscan. Est-ce que c'est quelque chose qui menaçait de se perdre, que vous avez essayé de revivifier d'une certaine façon? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, cornadiscan?
Ben, quand c'est chanter, discan, c'est déchanter ou rechanter après, quoi. Répéter, quoi. Et comme je vous disais, donc, vous avez un premier chanteur qui va chanter un air, un texte, que le second va reprendre, va répéter.
Alors, avec un peu de distance maintenant, puisque vous avez une belle carrière, quand vous regardez les musiciens bretons ou les chanteurs bretons d'aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'ils font avancer cette tradition, que c'est quelque chose qui se perpétue et qui évolue et qui change?
Je dois dire que il y a beaucoup de jeunes et c'est quand même très agréable de voir des jeunes à la fois compétents, talentueux, investis et qui sont très curieux, qui cherchent, qui sont très contents de... Évidemment, nous, quelque part, on a eu une chance, on avait une matière, on n'avait qu'à se baisser pour ramasser, quoi. Hein. Pour eux, je pense que c'est beaucoup plus difficile, d'ailleurs, le contexte de la langue aussi, parce que quand vous chantez, il faut quand même avoir une idée de ce qu'est la langue bretonne, de comment ça se... Voilà, ça s'articule, comment ça se... La diction, enfin, toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le quelqu'un qui veut chanter en breton, voilà, qu'est-ce qu'il a comme environnement autour, hein. Donc, alors c'est vrai qu'il y a, à côté de ça, ils ont aussi tout un apport musical. Peut-être que nous n'avions pas.
Gana bel bit ka sed o jit wa la la dir la Gana bel bit ka sed bit egen du ar nivi Bit egen du ar nivi ji bit egen du ar nivi Ikishen meiner veil o jit wa la la dir la Ikishen meiner veil edes mujetu erviu Edes mujetu erviu ji Agi barze veil si ujit wa la la dir la Agi barze veil si ewe ujer vi jure.
Merci donc à Jan van Schemener. En partant de chez lui, nous avons poursuivi notre route. Nous avons fait quelques kilomètres, c'est pas bien loin, pour nous retrouver à Châteaulin, où il y a un haut lieu de cette culture bretonne depuis 4 décennies. Et 40 ans, quand même, ça se fête. Et donc, nous avons rencontré Jacques, une personnalité historique de ce renouveau de la culture bretonne. Alors Jacques, merci beaucoup de nous accueillir ici au Renard Ponce. Je ne sais pas si je prononce bien.
Non. je me bats pour qu'on dise à Renard Pince.
À Renard Pince.
Ouais, parce que pour moi, c'est avant d'être un café-concert et le lieu dans lequel j'évolue, c'est quand même un lieu-dit, avant tout. Voilà. Et donc, c'est Renard Pince, c'est la colline du Puy en breton. Voilà.
Et c'est chez vous? C'est là que vous habitez ou pas?
Oui, c'est là que j'habite. C'est là que mes parents ont exploité une ferme toute leur vie. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver sur le coup de mes 18 ans, au moment de leur retraite. Et donc, donc mon frère avait repris l'exploitation familiale, mais sans l'élevage. Donc, les bâtiments étaient dispo. Et on était férus de musique. Donc dans les années 70, il y avait une formidable explosion musicale. Et voilà, il y avait beaucoup de choses qui se proposaient, mais peu d'endroits pour que les musiciens se produisent. D'où l'idée de créer un lieu permettant ceci. Et voilà.
Donc là, je sais que pendant les 3 jours qui viennent, vous fêtez avec tous les gens qui vont venir à Renard Ponce les 40 ans du lieu. Est-ce que vous avez l'impression que vous y avez accueilli, puisque c'est surtout un lieu musical, mais pas uniquement, est-ce que vous y avez accueilli toute une renaissance de la culture bretonne dans les années 70, justement, au moment où il y avait cette floraison, cette explosion d'intérêt pour la culture bretonne et d'artistes qui se révélaient?
Oui, bien sûr, oui, enfin, pas que, j'aime pas vraiment les exclusives. Donc c'est un lieu dont la programmation est très ouverte. Donc voilà, mais les artistes locaux sont super importants dans la programmation. Et du coup, c'est des artistes locaux qui peuvent exprimer une artistique celtique, bretonne, ou pas. Ça peut être aussi du rock'n'roll, ou du jazz, voilà, ou de la chanson. Voilà, mais bon, c'est important, quoi. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait une vraie soif de découverte de la part des gens qui avaient envie de vivre ce moment-là, ce moment musical fort, quoi, qui était vraiment intense.
Alors, qui ont été les premiers qui ont fréquenté à Renard Pons?
Alors, le tout premier concert, c'est le concert des potes avec qui j'évoluais à cette époque-là, en fait. Donc, il y avait un groupe de folk music qui s'appelait les Pilaweriennes.
Voilà. Ce qui veut dire?
En breton, les chiffonniers.
Voilà. Donc vous étiez un des premiers chiffonniers.
Alors j'étais pas un chiffonnier, moi j'en faisais pas partie des Pilaweriennes.
Oui, vous étiez un admirateur des chiffonniers.
Voilà, un fan comme on dit. Ouais. Je les suivais un peu partout, on faisait beaucoup de fest-noz, mais on avait envie justement de faire évoluer un peu la musique aussi, donc d'être sur des répertoires de création, même s'il y avait une base traditionnelle. Voilà, l'idée c'était ça. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'endroits, comme je l'ai dit précédemment, et ben voilà, on a eu l'idée et l'opportunité à travers la ferme familiale de créer ce lieu.
Mais voilà. Donc au début c'était très bricolé, disons, c'était votre frère et vous, ou des copains et vous, qui invitiez les musiciens sans forcément avoir une licence d'organisateur de spectacle, en invitant les gens qui étaient au courant. Donc petit à petit, ça s'est un peu professionnalisé, j'imagine.
Voilà, vous avez parfaitement résumé les choses. Comme je l'évoque un peu de temps en temps, ces temps-ci, on a ouvert, je crois que pendant un an, il n'y avait pas de toilettes. Donc voilà, il y a eu vraiment beaucoup de bricolage. Les artistes n'étaient pas déclarés, c'était la totalité de la recette des entrées pour les artistes. Enfin voilà, c'était une autre époque.
Oui, c'était la bonne franquette.
Ouais, voilà, ouais. Ouais, mais c'est vrai que cette bonne franquette permettait beaucoup de choses et beaucoup de rencontres. Et voilà.
Ça a eu du succès au début, assez vite. L'existence de ce lieu s'est répandue un petit peu partout. Les gens en parlaient.
Oui, oui, tout à fait. À l'époque, bon, il faut replacer l'affaire dans un contexte politique aussi. On était dans la renaissance de la culture bretonne, on l'a évoqué, mais il y avait aussi un grand mouvement militant à travers le refus d'implantation militaire, la lutte contre une centrale nucléaire à Plogoff, la marée noire qui venait de nous arriver sur la gueule. Ben voilà, il y avait toute cette prise de conscience qui était importante, et du coup les gens fréquentaient les lieux en fonction des affinités politique. Donc c'est vrai que ce lieu-ci, en étant situé à Châteaulin, on était aussi très sensible au fait qu'une caserne allait prendre la place d'une zone d'emploi. Donc on a lutté contre cette implantation. On n'y est pas parvenu, mais bon, voilà, ça définissait un contexte politique quand même. Et c'était très important. C'était pas seulement faire la fête pour faire la fête. Il y avait un positionnement, quoi.
Donc c'était un lieu en effet à la fois libertaire, politisé, qui s'intéressait à la culture bretonne, à la langue aussi. J'imagine qu'il y a eu un certain nombre de musiciens qui sont venus et qui chantaient en breton au début, à une époque où ça commençait à se refaire, mais où c'était relativement rare.
Oui, bien sûr, oui, mais ça perdure. On a accueilli par exemple l'année dernière la Chris Braise Academy, donc qui est un des projets d'Éric Marchand. Et donc là, on a affaire à des chanteurs en langue bretonne, avec tout un travail de création autour des musiques modales qui est super intéressant, quoi.
Et est-ce que c'est resté un lieu de socialité, disons, un lieu où les gens viennent pour écouter de la musique, mais aussi pour se croiser, pour discuter? Je sais qu'on m'a dit qu'il y avait un marché toutes les semaines, je crois, où les gens viennent acheter des produits bio, en profitent pour boire un verre, pour se rencontrer.
Bah oui, c'est un lieu de vie. Donc c'est ouvert 5 jours semaine. C'est.
Qu'est-ce qui se passe alors 5 jours sur 7? Il n'y a pas de concert 5 jours sur 7.
Mais non, mais il n'y a pas que les concerts dans la vie, il y a tout le reste. Donc il y a les rencontres, il y a l'humain, on va dire, hein, c'est vachement important. Donc voilà, il y a ça.
Mais 5 jours sur 7, ça veut dire que les gens peuvent venir pour boire un verre, ça fonctionne comme un bar?
Oui, c'est ça, oui.
Alors Jacques, vous nous faites l'article pour ce soir, qui va-t-on entendre?
Electric Bazar.
Donc ce soir, pas de musique bretonne, ou il y en aura un petit peu en plus?
Bah après, Electric Bazar Company, c'est un groupe qui est basé entre Douarnenez et Brest. Donc c'est aussi de la musique bretonne, même si ça reste du rock'n'roll. Mais forcément, ça a un goût de marée qui monte.
Merci beaucoup. Ce soir-là, c'était donc le quartet Electric Bazar qu'on entendait à Le Renard Ponce, avec notamment Guillaume Le Guerne, qu'on vient d'entendre dans une autre formation. Je l'ai rencontré sur place et je l'ai fait parler de son instrument qui est si important dans la tradition bretonne.
La clarinette est un instrument dont on joue pour faire danser les gens en Centre-Bretagne et je viens plutôt de cet instrument-là, de cette façon d'appréhender la scène et les gens et le public et plutôt la musique de danse. Et en fait, on s'est rencontrés avec les personnes avec qui je joue ce soir dans un concours, entre amis, finalement, entre amis, entre musiciens de musique traditionnelle. Voilà. Donc je jouais dans un couple de deux clarinettes qui jouaient se répondre comme en canadien discant, comme le chant à répondre pour faire
Parce que ça, c'est une forme traditionnelle typiquement bretonne, le fait que non seulement les voix, mais les instruments se répondent et qu'il y ait une espèce de chant contre chant, quoi.
C'est exactement ça, oui. En fait, c'est vraiment une formule calquée sur le chant à répondre. Alors, dans des régions plutôt pauvres où on n'avait pas de quoi se payer des orchestres, et de toute façon, tout le monde chantait à la campagne. On chantait pour faire danser, on chantait pour raconter plein d'histoires, de toute façon, en général. Et la clarinette est arrivée donc au 19e siècle, je crois, en Bretagne. L'instrument est assez expressif et assez proche du chant, donc on s'en est servi. Plutôt que prendre du biniou et de la bombarde dans cette région-là, du centre-Bretagne, plutôt, voilà, on s'en est servi pour copier le chant. Et voilà, c'est devenu une forme instrumentale à part entière et assez inédite quelque part, je crois.
La clarinette, c'est votre premier instrument ?
C'est presque mon premier instrument. J'ai commencé par la bombarde, qui est un autre instrument traditionnel breton.
Alors, dites-nous un peu ce que c'est qu'une bombarde.
Alors, la bombarde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un instrument à hanche double. C'est un hautbois traditionnel. Contrairement à la clarinette qui se pratique avec une hanche simple. Donc voilà.
Mais c'est ce qu'on appelle aussi un instrument de plein air, c'est un instrument qui fait du bruit.
Tout
quoi.
À fait. Tout à fait,
plus sonore que la clarinette.
Oui, tout à fait. Par contre, justement, du coup, ça c'est très intéressant parce que la façon dont on utilise la clarinette en Centre-Bretagne utilise cette notion de plein air. On joue, en tout cas à l'origine, on joue pour les mariages, pour les fêtes, pour les courses de chevaux, pour toute circonstance qui peut rameuter du monde et faire danser ou faire écouter de la musique, on joue très très fort.
Ah oui.
Voilà, donc on joue le plus fort possible acoustiquement, mais voilà, il y a cette notion finalement de la musique de plein air.
Ouais.
Et donc ça se ressent vraiment beaucoup dans l'utilisation de l'instrument, dans la gestion du son, enfin voilà, des choses comme ça.
Vous êtes ce qu'on appelle un sonneur, vous vous considérez comme tel?
Oui, je viens vraiment de cette musique-là, ouais. J'ai joué très très longtemps en Fesnose et j'espère que je jouerai toujours d'ailleurs.
Et en Fesnose, vous jouez de la bombarde donc?
Non, plus du tout. Non,
vous avez abandonné la bombarde alors?
Ouais, on peut pas tout faire, enfin, c'est bon de se maintenir partout en tout cas, donc j'ai gardé la clarinette et je me suis mis au saxophone et voilà,
Et quand vous jouez, est-ce que souvent il y a dans vos improvisations il y a un souvenir de la musique traditionnelle bretonne?
C'est des choses qui peuvent arriver. Alors après, chaque musique a ses codes et tous les codes sont faits pour être transgressés. Mais oui, en tout cas, il y a moi ce qui m'a tout de suite plu dans la musique bretonne en général, dans la pratique des sonneurs et des chanteurs en général, la musique de couple, c'est la question de l'expressivité. Il y a vraiment une expressivité très très forte. En tout cas, moi, c'est par ce biais-là que j'ai appréhendé d'autres musiques ensuite. Donc je garde, quelque part, cette façon de faire.
Vous bretonnisez un peu Electric Bazar, vous pensez?
Bretonniser, je pense pas, mais voilà, après, j'ai le rôle mélodique, et donc, effectivement, j'ai un peu libre champ là-dessus. Effectivement, il y a cette question-là qui peut rentrer en jeu. Oui, je pense qu'il y a toujours des restes à choux, comme on dit en breton. Enfin,
Comment dites-vous?
Des restes à choux ou des restes. Enfin,
des restes à choux, alors ça veut dire il y a des restes.
Des
restes
de table. Voilà, c'est des. Oui. Enfin, il y a des traces de mon parcours, comme chaque musicien. Enfin, voilà, c'est un parcours musical et comme un autre. Et effectivement, le mien est passé par là et je revendique toujours. Eh bien, merci beaucoup à tous ceux que nous avons croisés dans cette déambulation bretonne si riche. Yann Fanch-Kemener, Jacques Aize, Guillaume Le Guerne, qui nous ont fait remonter au début de cette renaissance de la culture bretonne, il y a presque 50 ans maintenant, pour cette danse des mots qui vous était présentée exceptionnellement en partenariat avec la DGLFLF, la délégation à la langue française et aux langues de France. La danse des mots étant bien sûr une proposition du réseau Canopée et des RFI. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.
La pousse big ou ardui, big ou ardui, big ou ardui. La pousse big ou ardui, big ou ardui, big ou ardui. La pousse big ou ardui, la reine de Guilé. La pousse big ou ardui, la reine de Guilé. Ouais, ça rit, espalfe rouge, espalfe rouge, espalfe rouge. Ouais, ça rit, espalfe rouge, espalfe rouge, espalfe rouge. La 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 la